Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Donc c'est notre dernière émission.
Notre dernière mission, et pour cette dernière émission, on ne pouvait pas faire autre chose que de rendre hommage à Batya Baum, oui, qui vient de disparaître il y a quelques jours, le 26 juin. Cela a été vraiment une surprise, un choc, parce que Batya avait été très malade il y a un an, elle avait été hospitalisée longuement. Elle n'avait pas pu venir à Bréau, dont je parlerai après. Et puis, elle s'était remise. Moi, je l'avais vue plusieurs fois dans des cours en Zoom. Et elle a même, encore très récemment, sorti un livre de traduction. Elle avait participé aussi à la semaine de Ligour, début mai. Et puis, soudain, nous avons appris qu'elle était hospitalisée et qu'elle est décédée. Donc, Batya est vraiment une des grandes figures du yiddish en France. Personne très, très importante, aussi bien au niveau de la traduction qu'au niveau de l'enseignement et du partage de sa passion pour le yiddish. Alors, en quelques mots, elle est née en 1941. Son père Abraham, qui était venu de Pologne, a été interné à Pithiviers et fusillé comme otage en mars 1942. Je crois qu'il faisait de la résistance. Sa mère également a fait de la résistance. Les deux, donc la mère et la fille qui étaient toutes petites, se sont cachées d'abord à Lyon, puis elle a été enfant cachée dans une famille. Elle a parlé de tout ça dans des interviews, mais elle n'a jamais écrit sur son histoire. Et donc, elle a souvent raconté comment elle parlait dans la rue avec sa mère et que sa mère lui a, en yiddish, qui était sa langue maternelle, et que sa mère lui a tapé sur la bouche en criant « Non, non, tais-toi, tais-toi ». Donc, elle a été complètement bloquée par rapport au yiddish. Et elle a fait des études de lettres, elle a enseigné. Et puis, elle est revenue au yiddish en 81, donc à 40 ans. Et là, je dois dire qu'elle n'a jamais arrêté. Elle a eu une activité absolument énorme. De traductrice, d'enseignante, comme je l'ai dit. Et vraiment, on trouve ces traductions partout. Je vais en citer quelques-unes. D'abord, elle a fait aussi beaucoup de théâtre. Elle a participé, par exemple, puisque nous sommes à Strasbourg, elle a participé à la pièce de Sonia Lipsic, Miroels ou le testament d'un acteur juif, qui a été montée à Strasbourg en 87. Je pense que c'est vraiment une des premières activités en yiddish. Mmh. Et puis, en 95, elle a traduit Yossik de Joseph Bulot, que j'ai, qui est le récit d'un jeune garçon à Vilna. Elle a traduit des choses extrêmement différentes, des choses anciennes, comme les textes de Mendelemeucher Sforim, la Haridel, en yiddish dit Kliatschke, paru en 2008. L'anneau magique paru en 2019, également du même auteur, un auteur dont les œuvres ont paru dans les années 20. Hein, c'est un auteur qui est mort en 17. Hein, voilà, donc on est vraiment dans des œuvres anciennes. Elle a aussi une des très belles traductions, c'est le chant du peuple juif assassiné de Katzel Nelson, Das Lied von ausgehärteten jüdischen Volk, qui a d'abord paru dans la revue Caravane 2001, puis en bilingue en 2005, édité par la Maison de la Culture Yiddish avec une préface de Rachel Hertel. Également en bilingue, Aquarium Vert de Sutzke Vert, paru en 1953, traduit en 2013 avec une postface de Heather Valencia. Quand on voit aussi toutes ces traductions, il y a aussi tout l'ensemble, finalement, du monde yiddish qui a participé pour faire des préfaces, des postfaces. Le Monceau de Peretz Markish, aussi un morceau extrêmement expressionniste et tragique. Elle a aussi traduit Entre les murs du ghetto de Vilno. Donc, ce sont c'est le témoignage d'un jeune garçon qui s'appelle Rudashevski, et qui a été traduit en 2016 à partir du manuscrit. Alors, ça, vraiment. Kol HaKavod, comme on dit, parce que travailler à partir d'un manuscrit, c'est encore autre chose que de travailler à partir de textes imprimés. Et là, avec une préface de Gilles Rosier, ça a paru aux éditions de l'Antilope. Et également à l'Antilope, Histoire de temps passé à venir de Perrette, 2020. Elle a également traduit le témoignage de Zalmen Gradovski, qui était membre d'un Sonderkommando à Auschwitz, parution en 2013. Voilà, donc y en a encore d'autres. Hein, quand vous prenez un livre traduit du yiddish en français, il y a une chance sur deux que ce soit de la traduction de Batia Baum. Elle a aussi traduit deux petits livres de la Maison de la Culture Yiddish, qui sont des petits livres bilingues très, très agréables, qui servent vraiment pour la pédagogie. Donc, il y a Un manteau de prince de Bierstein et très récemment Fradelstock, Une danse. C'est donc des œuvres parues en 1919 et ça a été traduit par l'atelier de traduction qu'elle menait à la Maison de la Culture Yiddish 2021. Voilà, et un des tout derniers aussi, c'est Le Dernier Lointain. Ça, c'est un choix de poèmes d'Aaron Zeitlin, paru en 2021, avec un choix et une préface de Yitzhok Niborski. Donc, je dis vraiment, c'est les grands noms du Yiddish. Elle a aussi traduit des œuvres de Myriam Oulinover, qui ont été rassemblées par Natalia Krinitska. Voilà, donc vraiment des choses très variées, d'époques très variées, aussi de tons très variés, qu'elle traduisait toujours avec vraiment un soin, une conscience, vraiment la recherche du mot juste en français. Lorsqu'on lit ces traductions, il n'y a pas de défaut. Enfin, je veux dire, c'est bon, on peut toujours avoir une autre idée sur des choix de mots, des choses comme ça, mais il n'y a aucune erreur, par exemple, hein, contrairement à d'autres traducteurs que je ne nommerai pas.
Mais c'était un peu avant, quand c'était des pionniers, qu'on avait un petit peu oublié réellement.
Non, je dois dire que j'ai lu des textes de Rachel Hertel parus récemment où il y a des erreurs de traduction. Alors, parler de Dobzhinsky, évidemment, qui est un des pionniers. Voilà. Mais on en trouve quand même dans des textes, dans des traductions plus récentes. Je crois que, bon, je n'ai pas évidemment lu en yiddish et en français tout ce qu'elle a traduit, mais ce que j'ai lu est toujours absolument remarquable. Alors, on a parlé donc de son activité à Strasbourg. Évidemment, son activité était surtout à Paris, hein, où elle a enseigné, où elle a bien sûr travaillé, où elle avait un atelier de traduction également. Et là, je vais parler de la façon dont nous l'avons rencontrée toutes les deux de façon plus proche, c'est-à-dire à Bréau. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Bréau est un lieu un peu magique, je dirais, dans les Cévennes, un très joli petit village des Cévennes, où depuis plus de 20 ans, Liliane Brovert-Gomez et aussi son mari Didier organisent des rencontres, donc des rencontres de Yiddish, mais aussi des rencontres avec l'Occitan. Avec la région. C'est un lieu où il y a eu les protestants du désert, hein, qui ont été extrêmement persécutés, et aussi où on a caché beaucoup de juifs pendant la guerre de 39-45. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Bon, pourquoi Bréau ? Mais parce que tout simplement, c'est là que vivent, en tout cas une partie de l'année, Liliane et Didier. Et dans ce lieu, Batia est venue pendant des années et des années et vraiment généreusement donné ses connaissances, sa force de traduction, son énergie, sa passion pour le yiddish, un public très mélangé et souvent qui ne savait pas très bien le yiddish, je crois qu'on peut dire ça. Alors toi, tu as assisté à la traduction de Thévier le Lettré.
Thévier le Lettré, Shalom Aleichem, effectivement, mais ça fait partie un petit peu de sa philosophie d'enseigner à tous, et à tous de la même manière, quel que soit leur niveau de yiddish, du moment qu'ils avaient un bon niveau de français ou de culture générale, elle donnait la même chose, elle ne faisait pas tellement de différence, parce qu'effectivement, il y avait des gens de niveaux différents. Mais elle traduisait avec cette passion, avec ce goût de l'enseignement et du partage, incroyable, quoi. C'était un des derniers moments, quand Thévié se sépare d'une de ses filles qui va partir faire la révolution avec son mari et qu'il prend congé et qu'on sait qu'il ne la reverra plus, ben on pleurait tous quasiment, tellement elle arrivait à donner la force de ce texte.
Oui, parce qu'il y avait ce côté théâtral aussi, hein, parce qu'elle a fait beaucoup de théâtre, oui. Et donc quand elle lisait un texte, c'était jamais indifférent, c'était toujours avec vraiment beaucoup,
très
beaucoup chargé, de force.
Très Puis j'ai un autre souvenir avec elle, parce que j'avais écrit un texte sur Göbirtik qui incluait ben justement le chant du peuple juif assassiné, un des endroits que je voulais faire entendre en yiddish et en français. Et elle était là à Briot cette année-là. Alors je lui avais demandé, bon c'était une petite forme, on était en lecture, on n'a jamais monté cette pièce réellement, mais quand même plusieurs personnes qui participaient au stage de yiddish et aussi de musique, parce que cette année-là, il y avait Marine Goldwasser qui animait un stage de musique. Donc des musiciens ou des gens qui venaient pour le yiddish, un mélange comme ça, avaient été d'accord pour faire la lecture en français. Et elle avait fait la lecture de ces quelques vers du chant du peuple juif assassiné en yiddish. Et là aussi, ça avait une charge, une profondeur, à pleurer, quoi. Elle faisait tout ça tellement bien.
Oui, c'est vrai que quand on parle de ça, des gens qui sont capables de lire ou de réciter du yiddish de manière vraiment convaincante, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a bien sûr Raphaël Goldwasser, qui avait d'ailleurs utilisé sa traduction, je lui ai demandé récemment, du chant du peuple juif assassiné pour faire une représentation au musée d'art moderne à Strasbourg, à l'auditorium. Voilà, donc lui, bien sûr, il lit merveilleusement bien le yiddish, et Batia aussi, mais sinon, il n'y a pas tellement de gens qui sont capables de donner comme ça. Ouais.
Pardon, quand on pense que Raphaël, c'est une de ses langues maternelles, quoi. Il en a deux, il a le yiddish et l'espagnol. Elle, non, enfin, bizarrement, quoi. Elle l'a entendu, elle l'a oublié, on lui a tapé sur la bouche pour qu'elle ne le parle pas. Enfin, c'est une relation troublée à cette langue. Néanmoins, elle a une pratique et une manière de le prononcer comme si c'était une langue maternelle.
Voilà, donc dans ce village de Bréau, hein, où nous passons chaque année, maintenant depuis plus de 20 ans, une semaine, donc Batia était là, et Batia avait vraiment, on a travaillé pendant des années et des années sur la nuit sur le vieux marché de Peretz. Alors, ça a été édité donc en édition bilingue en 2016, et dans la préface qu'écrit Trochniporski, il parle donc de la composition de ce drame visionnaire, qui s'appelle d'ailleurs « Songe d'une nuit de fièvre », évidemment très inspiré par Shakespeare. C'est vraiment une œuvre monde, une œuvre totale, où Peretz fait vivre le shtetl, mais fait aussi revivre les morts. C'est une œuvre inclassable. Il y a travaillé de 1906 à sa mort en 1915 avec plusieurs éditions. Donc il y a une édition en 1907, en 1909, en 1922, après sa mort, hein, puisqu'il est mort en 15. Et puis il y a l'édition qui fait autorité, celle de René Schmerou, qui est un grand, grand chercheur yiddish, qui est de 1971, sur laquelle s'est appuyé Batia. Et alors, Yitzhak dit avec humour que Batia y a travaillé plus que Peretz, à savoir 35 ans, et qu'elle a fait plusieurs versions. Mais je crois que, bon, à Bréau, on a peut-être passé une dizaine d'années. Donc, on lisait, on traduisait. À l'époque, elle nous distribuait encore des photocopies, ce n'était pas édité. Et voilà. Et donc, tout ça aboutit à une mise en scène en 2013 sous la direction de Sabine Lemler. Voilà. Je vais donner plus de détails sur cette représentation, mais on va peut-être écouter une comptine, parce qu'en fait, parmi tous les centaines de personnages, c'est vraiment, c'est le monde entier, quoi. Parmi tous les personnages de cette pièce, il y a des enfants qui chantent, qui récitent des choses. Donc, on va peut-être écouter d'abord la musique, enfin, une petite comptine sur les chèvres.
Oui.
Et puis ensuite, on va lire le passage qui correspond.
Voilà, non, c'est une histoire dramatique sur un texte de Göbirtik entre un berger qui tombe amoureux d'une jeune fille et il en est follement amoureux et il finit par se suicider, il se noie et la jeune fille est assise au bord de l'eau et regarde tristement. Elle l'a rendu amoureux mais elle n'a pas donné suite et voilà, il est mort. Ça s'appelle Heid Siegele, écoutez-moi Petite chèvre, écoutez-moi, puis c'est ça un rapport avec la comptine où il est également question de chèvre. Écoutez-moi, chevrette, je vous raconte l'histoire de ce pauvre berger.
Voilà donc une chanson sur la chèvre.
Oui, alors, pardon, j'ai oublié de dire que c'était chanté ici par Hora Sittner, une chanteuse israélienne pas très connue, mais c'est intéressant tout ce qu'elle fait. C'est déjà relativement ancien, ça date des années 97.
Voilà, donc cette nuit sur le vieux marché est tout à fait impossible à résumer.
Donc n'essayons pas.
N'essayons pas, voilà. Donc, en tout cas, grâce à l'obstination de Batya, parce que bon, Batya était quelqu'un d'extrêmement obstiné, un action-te, comme on dit en yiddish, et donc c'est grâce à cela aussi qu'elle a pu faire éditer beaucoup de choses, et en particulier en bilingue, ce qui n'est vraiment pas facile en France. Et on a, après donc toutes ces années de travail, cela a abouti à une mise en scène en 2013 sous la direction de Sabine Lemler. Donc nous avons joué sur cette magnifique place du marché de Bréau. Le soleil se couchait, il y avait des gens qui intervenaient à partir d'une estrade, en particulier Batya qui faisait la récitante. Il y avait Dominique qui faisait le batran, c'est-à-dire l'amuseur, mais c'est celui aussi qui fait marcher toute la pièce. Il y avait des danses sous la direction de Marcel Gilou, des rondes.
Tout ça en français, rassure-nous.
Oui, sauf Batya qui a quand même récité quelques passages en yiddish, mais en particulier la présentation. Hein, mais la plupart des choses étaient en français. Oui, déjà, c'était pas facile de retenir en français. Hein. Et il y avait donc des danses, des rondes d'enfants. La didascalie de cette pièce est absolument énorme. Et donc, au milieu de toute cette place, de la place du marché normalement, mais là c'était la place de Bréau, il y a une fontaine dans laquelle des musiciens sont tombés. Et autour de cette fontaine, il y a une idole qui est bâtie. Et à un moment, les musiciens ressortent du puits. Il y a aussi les morts qui ressuscitent.
Oh là là.
Il y a la synagogue qui chante. Et vraiment, c'était un moment extrêmement impressionnant, vraiment, qui donnait le frisson. Et je crois que c'était vraiment une mise en scène proche de ce qu'aurait voulu Peretz. Alors, pour la petite histoire, pour la grande histoire, on peut dire que cette pièce a été montée en Union soviétique, mais alors vraiment pour montrer le vieux monde qui disparaissait et l'idéal d'un nouveau monde. Alors, c'est vrai que ça se termine par le batren, donc le jour se lève, le coq chante, donc les morts repartent. Le batren crie à la synagogue, et ce qui à la choule, à la synagogue, et la dernière, le dernier son qu'on entend, c'est la sirène de l'usine. Voilà. Donc on peut dire que la sirène de l'usine, c'est le nouveau monde, les ouvriers, les travailleurs. Je pense que c'était pas du tout l'idée de Peretz, qui était pas du tout. Qui ne croyait vraiment pas au communisme et au grand soir, etc. On ne sait d'ailleurs pas à quoi il croyait, et c'est justement ça qui fait la force du théâtre et de toute l'œuvre de Peretz, c'est que c'est très ambivalent, très riche et très ambivalent.
Voilà. Vous avez déjà fait un sacré coupure.
Oui, alors évidemment, nous avons coupé.
Qui a fait ça?
Ben, je pense que c'était Batia, surtout, peut-être un peu avec Liliane.
C'est énorme, c'est
très
long.
C'est énorme, et en plus, il y a énormément de choses très, très entrecoupées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 personnages dont chacun dit une réplique. Alors, peut-être que tu peux nous lire juste les petites comptines que chantent les enfants.
Voilà, alors il y a une fillette qui dit « Tous deux sommes allés nous promener dans les seigles et dans les blés. Sur les chemins où nous avons passé, l'herbe a déjà repoussé. » Je vous signale que ça rime.
Oui, exactement, oui.
Petits enfants, chevrette, chevreau, frotte tes petits sabots, rouge pomme d'orange. Quand le père frappe la mère, les enfants vont au bal danser. Ça commence déjà à être un petit peu plus sombre, mystérieux. Le batrain, danser, est-ce le mot pour tout changer? Et le batrain dit au musicien, oui, camarades, les amis, les enfants veulent danser, que leurs vœux soient exaucés. Violon, tambour, basse, cymbale, en pleine rue, qu'on lance le bal. Et les enfants disent pêle-mêle, mêle-pêle, bom-tic, bom-tic, bom-tic-tac. Donc, c'est des petites comptines rigolotes. Et je suppose que c'est là que les musiciens entonnent une mélodie endiablée.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi donc, le Nathan l'ivrogne qui est amoureux, un peu comme dans la chanson que tu as choisie.
Oui.
Et en fait, il est amoureux, mais arrive sa fiancée, sa promise, mais on se rend compte qu'elle est déjà morte, quoi. Et c'est aussi un moment assez macabre, assez très, très impressionnant.
Mais ça fait allusion au pogrom
Oui, alors, oui, certainement, mais indirectement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune violence, en tout cas, d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de non-juifs. Enfin, si on entend peut-être aussi la cloche de l'église, mais en fait, ça se passe vraiment dans un milieu juif. Alors, arrivent des blessés de guerre, c'est vrai, dont l'un porte sa tête, je crois, même dans la main, quelque chose comme ça. Oui, il y a des images, macabres. Il y a vraiment de tout dans cette pièce, c'est très très riche, c'est très compliqué. Et on a réussi, je crois, vraiment à en donner une image, une représentation, c'est le cas de le dire, tout à fait vraisemblable.
C'est écrit pour que ce ne soit pas joué par des professionnels, que ce soit le peuple, quoi, là, dans sa...
Oui, peut-être il y a ça aussi, et c'est vrai qu'on avait, je crois
cette
qu'on
énergie,
a...
Quoi, ouais, cette énergie, cette authenticité.
Voilà, et donc, pour terminer, cet hommage très, très incomplet à Batia, où on pourrait vraiment en parler pendant des heures, je vous dis que cette semaine à Bréau continue, enfin, va se passer en 2023. C'est du 8 au 14 juillet, à Bréau, dans les Cévennes, pas loin du Vigan. Il y a des cours, il y a des animations, il y a aussi un atelier de musique klezmer. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer, c'est toujours très sympathique. On peut passer juste pour une journée, pour une soirée. Ça vaut la peine de faire le déplacement. Il y a des repas en commun sur la place, il y a des animations. Moi, je vais faire un atelier de lecture, voilà, de Kadia Bolodowski, qui est l'auteur qu'on a étudié cette année. Et ben, je vous invite à venir. Et en attendant, je vous souhaite un bel été.
Bel été à tous.
Des bonnes vacances. Gute vacatien.
Merci Lucas. Et on se revoit à la rentrée.
Shalom aleichem.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.